Nous dérangeons pas à nos habitudes, ne changeons pas à nos habitudes, quitte de vous lasser encore une fois, mais je sais, mais je prends le risque de vous lasser avec ces messages. Et encore une fois, le message d'aujourd'hui s'est fait suite à une lecture que j'ai eue cette semaine, une lecture qui m'a parlé encore une fois, et encore une fois, il n'y a rien de nouveau. C'est ça qui est le paradoxe. C'est qu'avec le Seigneur, c'est que toujours la même chose, mais on a l'impression que c'est toujours nous, quelque chose de nouveau. Et c'est ça la nourriture avec le Seigneur. C'est qu'il nous nourrit de la même façon, de la même chose, mais cette nourriture, en fait, nous donne toujours. Plus on la mange, plus on a soif. Plus on la mange, plus on a faim. Plus on la mange, plus on a envie de manger encore plus. Quand il dit vous êtes rassasiés, il faut le lire dans le sens où vous chercherez toujours à être rassasiés. On a toujours faim de la parole de Dieu. Et le message d'aujourd'hui revient toujours à ce qui est central de la vie chrétienne, qui n'est pas une option. Et j'ai envie de dire en fait que souvent on met de côté parce que, bon, je parle par expérience encore une fois, parce que je suis passé par pas mal de dénominations, pas mal d'autres assemblées, ça fait, je dirais, un peu plus de 30 ans maintenant, et on a toujours cette recherche de plaire. En marketing, on dit la fidélisation de la clientèle. Vous voyez, donc, on enlève cette expression, mais on peut utiliser d'autres. Ça veut dire dans l'Église, on a envie de répondre à ce que les autres attendent. S'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent, mais ils vont dire, ben, je me suis trompé de magasin. Donc je vais chercher ailleurs. Et souvent, quand on cherche ailleurs, ça peut être aussi un signe que nous cherchons à satisfaire nos propres besoins, alors que chercher la volonté de Dieu. Mais encore une fois, j'ai presque envie de défendre l'être humain. C'est humain, encore une fois. Ça nous permet en fait de ne pas condamner les autres à l'extérieur parce qu'on était comme eux. Le titre de cette intervention ce matin, c'est pas le besoin de brisement, mais je l'ai intitulé l'indispensable brisement. Voilà le titre de l'intervention ce matin. Quand nous lisons dans les évangiles certaines lettres de l'apôtre Paul, en l'occurrence Éphésiens, Colossiens, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul nous rappelle que nous avons tout en Christ. Je vous invite à lire Éphésiens, Colossiens, vous verrez, c'est un rappel pour nous dire, vous avez tout en Christ. Il s'adresse aux frères et sœurs à l'époque, il leur dit, vous avez tout en Christ. Tout. Et dans le tout, il ne manque pas quelque chose, c'est le tout. Nous avons tout. Il nous a tous bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Car en lui, en Christ, car en lui, toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Comme ça, je vous donne les références pour ceux qui veulent relire encore ces passages. Lui qui n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas également toute chose avec lui? Si nous avons reçu Christ, nous avons reçu toute chose. C'est un rappel. Je vous donne la référence. C'est Romains, chapitre 8, verset 32. Vous pouvez lire, à chaque fois que je vous donne des références, vous pouvez lire les versets avant et après, parce que c'est enrichissant encore. Dites-moi, s'il vous plaît, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, de quoi manquons-nous spirituellement? Je pose cette question solennellement, y compris la question s'adresse à moi. Ces passages démontrent d'une manière claire, et nous croyons la parole de Dieu. Avec les enfants, ce matin, nous avons posé la question. La parole de Dieu, elle est vraie. C'est la parole de Dieu. Je n'ai même pas besoin de dire qu'elle est vraie, parce que c'est la parole de Dieu. Ces passages démontrent d'une manière claire que nous sommes déjà remplis de tout ce que Dieu a et est. Depuis que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons tout en nous. Bien entendu, en Christ qui nous habite par l'Esprit. Est-ce qu'il manque quelque chose à tout? Peut-être c'est nous qui donnons une autre définition du tout. Tout, c'est un tout. Il manque rien. Est-ce que dans le plein, on trouve du vide? Oh, peut-être on peut le démontrer scientifiquement, peut-être. Ça, c'est une autre vision. Mais quand on dit plein, nous avons tout. Est-ce que le complet est incomplet? C'est du n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Le complet est incomplet. Est-ce que l'imparfait est parfait? Est-ce que le parfait est imparfait? C'est du n'importe quoi. Avec le Seigneur, avec Dieu, quand il dit il y a tout, c'est tout. S'il y a un manque dans nos vies, et j'en suis convaincu, que ce manque ne vient pas du Seigneur, n'est pas la part du Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs à d'autres, à ces croyants plus puissants, je sais quoi. S'il manque quelque chose en nous sans se comparer aux autres, c'est qu'il y a un manque qui ne provient pas du Seigneur. C'est parce que nous cherchons à remplir de quelque chose que nous avons déjà. Nous ne nous rendons même pas compte que nous avons tout en Christ. La question n'est pas d'obtenir plus du Seigneur. Souvent, dans la vie chrétienne, on cherche à avoir plus du Seigneur, puisque nous avons tout. Oui, c'est ça le rappel, le paradoxe. Je me pose toujours cette question quand je lis Éphésiens, Colossiens. Mais nous avons tout. Mais dans nos prières, nous voulons du Christ. La Bible nous dit, vous avez tout. La question n'est pas d'obtenir plus du Seigneur, mais de libérer la vie qui est déjà cachée en nous. Cachée derrière le voile de notre chair. En fait, nous ne devons pas prier, Seigneur, donne-nous plus de Christ, mais que nous réalisions moins de nous. Et c'est ça qui fait que ce voile entre ce que nous avons déjà en nous et notre vie qui fait obstacle à cette marche avec le Seigneur. Pour le dire d'une autre manière, ce n'est pas de plus du Seigneur dont nous avons besoin, mais de moins de nous, de nous-mêmes. Nous devons être brisés. Voilà le titre de notre intervention, l'indispensable brisement. Sans ce brisement, il ne peut pas y avoir cet accès direct de ce que nous avons déjà en nous. Au début de cette rencontre, de ce culte, j'ai lu deux passages dans les psaumes et je les relis. Psaume 34, versets 18 et 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et dans Psaume chapitre 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Connaissons-nous dans la parole de Dieu un homme ou une femme de Dieu qui n'a pas été brisé par Dieu? Donnez-moi un seul exemple dans la parole de Dieu dans la Bible. Toute l'histoire des hommes, serviteurs de Dieu d'hier et d'aujourd'hui, ont connu ou connaissent cette épreuve du brisement. Ils sont brisés pour être remodelés par Dieu. Rares sans les vies chrétiennes non brisées. Si, il y en a, mais c'est une vie religieuse, qui ne veut pas le brisement, donc elle reste dans cet enfantillage chrétien. Rares sont les vies chrétiennes non brisées, qui sont utiles à Dieu. Adam, Abraham, Jacob, Moïse, Job, David, l'apôtre Paul, et j'ai mis trois points, ont été humiliés, puis restaurés, dans leur nouvelle façon de vivre, Dieu les a préparés pour le service. Mais qu'est-ce que le brisement? On entend souvent le brisement. Donc, ce côté péjoratif, on le prend toujours, ce côté péjoratif. Donc, Dieu aime son peuple, il ne va pas le faire souffrir. Le brisement, c'est un état engendré par Dieu pour mieux corriger les hommes. C'est un degré de maturité à atteindre pour le salut par la grâce. Personne ne peut accepter le brisement si ce n'est Dieu qui le prépare pour le brisement. C'est un dépouillement total et progressif de l'âme et du corps, d'un individu pour la rencontre finale entre les deux êtres. Dieu nous prépare pour la rencontre du ciel, mais nous n'y irons pas si nous ne passons pas par cette éducation divine qu'on peut appeler métamorphose, si vous voulez. Mais c'est un brisement continuel de la vie jusqu'au dernier brisement, restauration, qui est la mort physique. Un homme de Dieu, Watchman Nee, vous connaissez, cet homme de Dieu chinois, a écrit « Le brisement de l'homme extérieur est la libération de l'esprit. » Le brisement de l'homme extérieur, c'est-à-dire son âme et son corps, Et EST, c'est la libération de l'esprit en nous. Le brisement est une nécessité de premier ordre, dans la mesure où la plus grande muraille qui empêcherait le bon fonctionnement du travail de Dieu chez l'humain réside dans notre propre nature humaine, dans notre propre personne. Souvent, nous accusons le diable, et c'est vrai, il tente, il nous tente, il cherche partout les moyens de nous éloigner de la vérité. Mais lui aussi, il utilise notre propre nature. Il est plutôt difficile à l'homme extérieur, ce que la Bible appelle le vieil homme, le premier Adam, de se soumettre à la volonté de Dieu dans l'homme intérieur, parce que l'esprit habite dans notre être intérieur. C'est ce qui empêche les chrétiens, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Ce même homme de Dieu, Watchman Nee, affirme: ce n'est que par une épreuve fondamentale que nous pourrons devenir des instruments utiles au Seigneur. Vous voyez ? C'est l'enseignement de Dieu. C'est dans la Bible qu'apparaît la première fois le mot brisement. Et souvent on dit, on en parle dans le Nouveau Testament. Mais je vous ramène dans l'Ancien. Le mot brisement est utilisé dans l'Ancien Testament. Chez David, le psalmiste. Et chez d'autres. Par exemple, dans les psaumes 34, 18 et plus que nous avons lu, je le rappelle. Je prends par exemple les psaumes 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Encore une fois, il ne faut pas être malade, mental, pour dire je vais chercher le brisement. Je ne parle pas de ça, j'insiste. Il ne faut pas chercher le brisement, parce que ça c'est une maladie. Et là, je crois qu'il faut chercher ça, se faire soigner. Le brisement, c'est quand de l'épreuve que Dieu permet dans la vie, nous ne recherchons pas et nous rencontrons cette épreuve. Alors soit cette épreuve nous mène vers la mort, au suicide, voire au rejet de tout le monde, soit elle peut nous amener vers la vie. Et c'est ce brisement-là que je parle, que Dieu utilise pour qu'on s'affermisse, pour qu'on ouvre notre cœur, qu'il nous parle. Psaume 51, 17. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Et dans Matthieu, chapitre 14, versets 19 et 20, on peut lire, c'est quand le Seigneur était avec la foule. Il fait asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il ne faut pas, comme on l'a dit la dernière fois, il ne faut pas seulement se fier au message visible de ce que fait le Seigneur. C'est qu'en faisant cet acte-là, il est en train d'enseigner. C'est-à-dire en train de nous dire, regardez l'enseignement qui se cache derrière ce que je fais. En leur donnant le pain, rompre le pain et leur donner, c'est qu'en leur disant, vous avez besoin quotidiennement du brisement comme ce pain brisé que je vous donne qui vous rassasie. Mais spirituellement, si vous voulez être rassasié spirituellement, vous devez vivre ce brisement. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 24, Paul rappelle ce qu'il a fait le Seigneur. Et il écrit, et il dit, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est le sens encore de la Sainte Cène que nous avons pris. C'est que non seulement j'applique ce symbole qu'il nous est laissé par le Seigneur, mais c'est un enseignement, un rappel que ce pain qui représente le corps de Christ mort sur la croix brisée, eh bien il devient mien, c'est-à-dire moi aussi je dois passer par ce cheminement en prenant ce pain dans ma bouche et le broyer. Vous voyez, c'est l'enseignement de la vie chrétienne. Dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12, on sourit à l'idée du toit brisé pour laisser passer le paralytique. Ça vous parle ? Il y avait tellement la foule pour passer sous paralysie qu'on le passe par le toit brisé. L'enseignement du toit brisé, au-delà de ce visible, c'est qu'il faut qu'il y ait une brisure pour avoir accès au Seigneur quand on est paralytique. Et paralytique, pas seulement physique, nous sommes paralytiques spirituels. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 12, on pourra aussi lire quelque chose de très intéressant, où l'apôtre Paul dit « La mort agit en nous, mais la vie en vous. » Pendant que nous vivons ce brisement continuel en souffrant, nous, on peut se plaindre, on peut même devenir des syndicalistes face de Dieu, dire « Mais c'est pas normal !» Mais le Seigneur nous dit « Ce que vous vivez là, C'est parce que vous vivez ce brisement, cette souffrance, que la parole de Dieu est annoncée, que les hommes et les femmes sont sauvés. L'un des premiers exemples du brisement n'est-il pas l'Adam ? J'ai bien l'Adam, pas Adam, l'être humain. L'endormissement de cet être androgyne, et on a brisé, on a coupé pour créer la femme et l'homme. Pour que la femme existe, pour que l'homme existe, il a fallu cette brisure. Sinon, il n'y aurait pas ni vous ni moi aujourd'hui. Vous voyez, l'indispensable brisement. Le principe de brisement est présent dans la création depuis l'origine. C'est un principe que vous trouvez dans la nature, dans partout. C'est un principe où le chrétien doit réaliser. Sans ça, nous ne pouvons pas arriver à cette maturité spirituelle. Moïse, homme de caractère exilé lui aussi, rétrogradé en simple berger du désert, avant que Dieu le rappelle, pour le servir et pour guider son peuple vers la terre promise. Et en plus, il l'a gardé dans cette brisure continuelle, au point d'avoir une tare, un défaut, il n'arrive pas à parler normalement. Il l'a accompagné d'Aaron pour lui dire, certes, tu es un prophète, je dirais que tu travailles avec moi, tu collabores avec moi, mais n'oublie pas que tu as besoin d'une aide, parce que tu n'arrives pas à parler devant tout le monde. Le brisement peut être un processus de bénédiction, comme je l'ai dit, comme celui d'endurcissement et de mort. C'est le cas du Pharaon, dont le cœur s'endurcit avec les épreuves. Pour le peuple hébreu, ça a donné la terre promise. Pour Pharaon, ça a donné l'endurcissement du cœur, et la finalité n'est pas la même. Et l'exemple de Job est très édifiant. Son brisement l'a amené à confesser à Dieu. À la fin, quand il était délivré, « Mon oreille avait entendu parler de toi, le religieux, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job, chapitre 42, versets 5 et 6. David, le roi David, le célèbre roi David, l'homme que la Bible dit selon le cœur de Dieu, a vécu le brisement de son homme extérieur, de son âme, qui était mauvaise. Et c'est lui-même qui dit, dans le psaume 31, verset 13, « Je suis comme un vase brisé. » Paul de Tarse, Saul de Tarse, avant de devenir le grand apôtre Paul, « Jeune et puissant de la race des Sanhédrins, a été réduit à vendre des tentes pour survivre. » Dieu, dans sa toute-puissance, a été le chercher alors qu'il persécutait violemment les chrétiens. Sa transformation est débutée par un brisement radical sur la route de Damas. Actes chapitre 9, versets 3 à 5. Le brisement de Paul a permis aux païens d'ouvrir leur cœur au message de la bonne nouvelle. Brisement. Et si je m'arrête là, j'oublierai le plus important. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a été brisé et crucifié pour nous sauver. Et la première brisure, c'est le fait déjà de prendre notre nature. Le fait déjà de cette infinité accepte de venir dans un corps comme le nôtre. Mais quelle brisure, quelle souffrance. Il a payé le prix déjà comme ça. Mais il ne s'est pas arrêté là. Brisé par la crucifixion, mais aussi par une séparation vécue sur la croix. Et celle-là, pour moi, est la pire que le Seigneur a vécue. Nous pensons aux clous qui ont ses mains et ses pieds. Mais cette séparation, je pense, on ne peut même pas imaginer l'atroce souffrance qu'il a vécue quand il s'est écrié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce qui est le plus terrible qu'un fils de Dieu puisse vivre en se coupant de son Père au ciel. Mais en le faisant, il s'est identifié à nous pour nous dire, c'est ce que nous devons crier aujourd'hui. Père, Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi nous avons vécu cette mort spirituelle depuis toujours? Il s'est identifié à nous, mais lui, il a fait ça délibérément, sans le mériter. Ce geste expiatoire aura permis de nous justifier par grâce et de nous permettre de nous réunir ce matin. Grâce à son sang versé. Jésus avait donc raison de déclarer solennellement dans Jean chapitre 12 verset 4 « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Brisement indispensable. Le brisement est d'une nécessité absolue, la seule apte à dompter les plus récalcitrants des serviteurs de Dieu. Tout simplement à dompter le chrétien tout court. L'homme brisé doit être par la suite souple et conciliant. Dieu réside dans notre homme intérieur. Il y prit place et son esprit est à l'intérieur de nous. Depuis que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons Christ en nous, nous avons l'esprit en nous. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « Lorsque notre être, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et même la nature humaine. Le chrétien, la nature humaine est bien faite. Elle est Dieu fait les choses parfaitement. Et bien même avec le chrétien avec l'âge, c'est un brisement naturel que Dieu permet. L'âge, par nature, nous fait grandir, nous fait rapprocher de cette maturité spirituelle. Merci Seigneur pour cet âge que nous vieillissons. Parce que quand il joue sur notre corps, notre âme, c'est un brisement. Et en quelque sorte, c'est une expérience qui nous rapproche de cette maturité spirituelle. L'homme intérieur a besoin de liberté pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Il a besoin de se libérer de l'homme extérieur. Quand je dis homme extérieur, c'est l'ancien Adam, si vous voulez. Le vieil homme, c'est la nature humaine. Il faut donc briser la coquille du grain de blé pour que le vieil homme meure et qu'un homme nouveau soit le fruit de la promesse. Il faut faire sortir l'homme intérieur de sa prison. Nous avons Christ en nous, nous avons l'Esprit en nous, mais j'ai l'impression qu'ils sont emprisonnés en nous. Une fois libéré et libre, l'Esprit n'étant plus confiné, sera à son aise pour travailler pour le Seigneur. C'est donc pour cette raison que l'Esprit Saint, à l'aide d'épreuves, je dis bien à l'aide d'épreuves, pas recherchées, mais subies à l'aide d'épreuves, doit briser et démanteler notre homme extérieur, c'est-à-dire notre âme, notre moi, notre nature humaine, afin de frayer un passage à notre homme intérieur. Donc nous avons tout en nous, mais seulement le voile de la nature humaine qui empêche ce tout en nous de rejaillir. C'est exactement l'exemple du temple quand le Seigneur était sur la croix, quand il a rendu l'âme, quand il est mort. On nous dit le temple s'est déchiré, s'est coupé en deux. En fait, c'est comme si d'un seul coup nous avons accès à ce lieu très saint, accès à Dieu. D'après les paroles de Jésus que nous avons citées, la coquille extérieure de la graine, selon toute vraisemblance, représente notre vie. Alors là, je peux mettre des mots sur notre nature humaine. Ça peut être nos sentiments, intelligence, pensée, émotion. Donc, en tout cas, c'est notre nature, celle en fait, on est conscience qu'elle nous dirige. Et la vie intérieure, la vie éternelle qui est au fond de nous recherche à se libérer. Une fois l'homme intérieur libéré, on sera béni par la grâce de Dieu. Il faut se dépouiller de l'enveloppe extérieure, du moi qui nous accapare, de notre égocentrisme, de notre volonté d'aller à l'encontre de Dieu, de notre religiosité et de renoncer à soi-même et à tout. Et il n'y a que l'expérience, il n'y a que la pratique pour commencer à vivre cette libération. Ce n'est pas parce que je me lève le matin et je me répète les mêmes mots. Non, Seigneur, guide-moi, fais rentrer dans les épreuves tout en me préparant pour les traverser. Et c'est comme ça qu'on traverse les épreuves qui nous mènent vers la maturité. C'est l'épreuve du brisement. C'est l'épreuve de la croix. Et c'est cela, porter sa croix tous les jours pour le suivre. Car, nous dit Jésus, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 25. Notre propre être doit être brisé. Vous comprenez que ce message ne peut pas être annoncé comme ça dans les églises? Si les cœurs ne sont pas préparés, c'est comme si on leur dit, ils viennent pour entendre le Seigneur est bon, la bonté, tout ce qui est, je dirais, joie, paix, et on leur dit brisement. Mais qui dit brisement, dit l'autre facette. S'il y a brisement, il y a la résurrection. Et cette joie que Dieu que procure le brisement, c'est une joie qui n'est pas humaine. C'est une joie divine. Si sa vie demeure emprisonnée en nous, nous ne serons jamais une source de bénédiction pour l'Église. Et Dieu ne pourra pas accorder sa grâce au monde à travers nous. Puisqu'il est enfermé en nous, comment peut-il se transformer aux autres s'il n'y a pas une brisure, une cassure et ce voile qui se déchire pour qu'il y ait cet accès vers l'extérieur? Dieu veut frayer un chemin afin de bénir le monde entier à travers ceux qu'il aime et ceux qui lui appartiennent. Le brisement peut être graduel. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de règle. On est tous différents avec le Seigneur. Il s'occupe de chacun de nous. Et l'éducation de l'un n'est pas l'éducation de l'autre. Nous ne sommes pas des apôtres Paul, nous ne sommes pas des Job, nous ne sommes pas des rois David. Nous sommes des enfants de Dieu complètement différents. Il y en a qui vivent peu de brisement, d'autres beaucoup. Mais le Seigneur prend contrôle de toutes choses. Nous ne pouvons pas réduire le temps nécessaire au brisement de l'homme extérieur, mais nous pouvons le prolonger. Dieu, par exemple, punissait dans la Bible, punissait Jacob sans cesse. Le pauvre Jacob, sans cesse, était jusqu'à la fin de sa vie. Il était accompagné, brisé par le Seigneur. Dieu n'a pas voulu accorder la guérison à Paul, alors qu'il a eu des guérisons à travers lui. Le Seigneur, à travers Paul, il a eu des guérisons. Mais lui, il dit non. Il a dit, c'est juste une chose qui te suffit. Ma grâce te suffit. Mais tu vas porter cette souffrance de toute ta vie. Par notre comportement, notre tâtonnement, certainement par notre négligence, et la mienne le premier, ou encore par l'absence de conviction de péché, par manque de repentance sincère, nous perdons un temps précieux pour voir Dieu à l'action dans notre vie, dans la vie de l'Église, et par conséquent, nous retardons le témoignage vivant. Notre témoignage, notre conversion, est-elle intellectuelle ou basée sur une conviction de péché? Il est bien de se poser la question. Est-ce que ma conversion est issue d'une conviction profonde qui m'a amené jusqu'à conviction de péché et je me suis converti? Ou est-ce que je me suis converti par proximité, par sympathie, intellectuellement? Ce n'est pas la même chose. Toute repentance, tout brisement est basé d'abord sur une conviction de péché. Nous devons donc passer par la croix. La croix ne mène pas au vert pâturage. La croix nous mène vers le désert. Comme le peuple hébreu qui a erré durant 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Après le baptême du Seigneur, c'est ce baptême que représente la croix. Il est allé dans le désert confronter le tentateur. La croix nous mène vers la découverte de nous-mêmes, vers la découverte de notre mort spirituelle. C'est ça la croix pour prêcher. Quand on prêche la croix, c'est qu'elle nous mène vers ce qui est dur, ce qui est le désert. Elle nous montre ce que nous sommes. Notre éloignement du Seigneur, qui nous ramène cette conviction vers la repentance, c'est à ce moment-là le Seigneur maintenant, le voile se déchire et je me révèle. La croix nous mène vers la découverte de nous-mêmes, vers la découverte de notre mort spirituelle. Et en même temps, elle nous invite à goûter la mort du Christ. Le chemin n'est pas simple. Elle nous mène à goûter le chemin que le Christ a suivi, c'est-à-dire la mort du Christ, et y rester le temps qu'il faut pour expérimenter cet éloignement de Dieu. Et chacun a son temps. Le temps que Dieu mettra avec moi n'est pas celui de vôtre. Il y en a qui passent du temps, beaucoup de temps dans la réalisation de cette mort, d'autres peu, pour passer à l'étape suivante, la résurrection. Le temps d'expérimenter cette conviction de péché et cette repentance sincère. C'est ce que représente, dans la Bible, les 3 jours de Jonas dans le ventre du gros poisson. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 jours de poisson? Alors que lui qui s'est sauvé de la face de Dieu, Dieu l'appelle pour aller prophétiser, pour parler à un endroit, il s'est sauvé alors qu'il était religieux. Il s'est sauvé. Il a fallu que Dieu le mette dans cet état, dans le ventre du poisson, il perd tout espoir. Qu'est-ce qu'il a fait pendant dans le ventre? Et vous verrez, il a passé 3 jours dans la tristesse et dans la prière. Et c'est à l'issue de ces trois jours de tristesse, de repentance, de conviction, de repentance et de prière que le poisson l'a vomi. Et à ce moment, il a dit, mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Nous avons besoin de ce brisement continuel. L'intensité n'est pas uniforme. Pour libérer notre être intérieur où réside l'Esprit de Dieu, seul l'Esprit de Dieu peut vivifier, donner la vie. Seul ce qui est au fond de nous peut donner la vie, pas notre savoir au fond de nous. Mais si cet être intérieur n'est pas libéré, mais il est toujours là, mais il ne profite pas aux autres. Puisque seul l'Esprit peut donner la vie, Jean chapitre 6, verset 63. Ce n'est qu'une fois l'Esprit libéré que tout pécheur sera régénéré et tout croyant édifié. Beaucoup de croyants veulent se rapprocher de Dieu, non pas pour être brisés, comme Job, David, l'apôtre Paul et j'en passe, mais seulement pour ramasser et collecter des bénédictions. Et à la moindre épreuve, ils sont vacillants. Il ne faut pas se poser la question pourquoi. Plus nous vivons la mort à nous-mêmes, plus devant l'épreuve, nous sortons vainqueurs en Christ, dans une communion avec lui. Le mot brisement en soi provoque déjà des psychoses dans les milieux chrétiens. De la peur et du rejet dans bien des milieux chrétiens. On veut vivre sa vie chrétienne sans la croix. Et quand on accepte la croix, on ne veut accepter que son côté attractif. C'est-à-dire la victoire de la résurrection avec ses dons spirituels. On se plaît à répéter sans cesse que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour moi. Mais on oublie que nous sommes appelés à suivre le même chemin en portant notre croix pour expérimenter et vivre notre mort quotidienne. C'est un message déplaisant qui ne fidélise pas car il condamne la chair. Il condamne la nature humaine non régénérée. J'en suis vraiment navré. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 18, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je comprends ces passages. C'est en psaume 51, 19. Sommes-nous un vase clos ou un vase brisé? Rappelons-nous du vase d'albâtre. Cette femme qui est venue vers le Seigneur, avec son vase, on lui a dit, mais ça ne va pas, non, ce vase il coûte cher, oui, il est le contenu. C'est en se brisant qu'il a répandu son parfum. Sinon, il resterait toujours dans sa boîte, dans sa bouteille. On sait bien qu'il y a le parfum, qu'il y a une valeur. Mais tant qu'il n'est pas brisé, on ne sent pas, on ne profite pas de ce parfum. Ce parfum a même parfumé la tête de notre Seigneur. Et dans la culture hébraïque, quand on dit « on met le parfum dans la tête de quelqu'un », c'est qu'on lui fait honneur. C'est ça. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, c'est une signification. Dans la maison de Simon le lépreux. En fait, tout simplement, chez les pécheurs. Le lépreux, la lèpre, c'est vraiment un signe de saleté, de péché. Donc il était chez... En fait, il est en train de nous dire « le Seigneur est dans le monde hein? ». Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Ayant rompu le vase, vous voyez, rompre, brisement, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Marc, chapitre 14, verset 3. Est-ce que Christ est lié et retenu dans notre être intérieur? Ou est-ce que le voile est déchiré pour qu'il puisse s'exprimer par nous? Avons-nous exprimé notre volonté de mourir à nous-mêmes afin que nous puissions produire beaucoup de fruits? Ou sommes-nous la graine qui refuse de mourir et nous demeurons alors seuls? Retournons à la croix. Retournons sans cesse à la croix et humilions-nous pour qu'il ait la liberté d'expression en nous et par nous. Désirons-nous la présence du Seigneur? Alors demandons au Seigneur dans la prière. C'est la seule chose que nous pouvons faire avec le Seigneur. Et c'est tout ce qu'il nous demande, c'est adressez-vous dans un cœur sincère, dans la prière, dans votre solitude. Demandons au Seigneur de nous diminuer par la croix, parce que le Seigneur est près de ceux qui ont un cœur brisé. Amen.